CO2 mon amour, avec Ocofen, chaudière à granulés de bois, chauffage central écologique et économique. Rendez-vous sur ocofen.fr.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine CO2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui Fabien Gosset et Olivier Leroux à la technique, et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinazas et Xavier Pessugia qui réalisent cette émission. Bon, alors disons-le tout net, je me suis fait couper la fouine sous le pied. Je m'étais dit, après le buzz fourni par Guillon sur France Inter, j'avais un papier d'humeur tout trouvé. Il faut prendre la défense des fouines et des taupes, déjà bien malmenées par l'opinion publique. Être fouine, premièrement, c'est un karma difficile à porter. Deuxièmement, être classé nuisible pour faire plaisir aux chasseurs, c'est une douleur quotidienne doublée d'une injustice. Mais en plus, troisièmement, être comparé à un homme politique, là, c'est quasiment vouer l'espèce à la disparition. Donc l'ami François Morel a dit haut et fort et bien ce qu'il fallait dire sur le sujet hier matin. Je le nomme donc secrétaire d'État du MDFTF, le mouvement de défense des fouines et des taupes françaises, mais exclusivement françaises. Donc une émission en direct du Salon du Livre de la Porte de Versailles, où nous sommes réunis pour une croisière sur la planète des mots, en compagnie de nos capitaines Auloncourt, Hubert Reeves, Tignous, Frédéric Lisac et Sébastien Viau. Une planète avec ses adjectifs à effet de serre, ses changements orthographiques et ses points d'interrogation pour demain. Quid du bouquin papier, du livre électronique. Planète des langues parlées aussi avec ses milliers d'espèces rares, dont la moitié sont aujourd'hui menacées de disparition. Planète de l'écriture qui fête allègrement ses 5000 printemps avec ses océans d'imagination où l'on vogue de page en page, où on surfe sur l'écume des mots, on se laisse porter par les courants d'idées, par la foule d'ouest, par la brise de verre et le souffle du printemps. Et un printemps visiblement absent de l'agenda politique de la semaine, marqué par un grand vide-grenier au ministère de l'Environnement et à l'UMP. Cette fois-ci, tout doit disparaître, y compris ces vieilleries auxquelles on avait fini par s'attacher. Vous savez, le Grenelle de l'environnement, la taxe carbone, le thon rouge, le requin taupe. Bref, une semaine de pas mal de renoncements en matière d'environnement. À vous désespérer un peu de l'agence Politicus, version monoculture intensive de la pensée, avec ses engrais, ses pesticides et ses éléments de langage cuisinés par les ingénieurs chimistes de la communication. Et si, à notre tour, pour le grand nettoyage de printemps, on faisait le ménage dans le dictionnaire des générations futures, en commençant par des expressions qui n'auront bientôt plus cours, du genre huile de palme, tout automobile, tout nucléaire, tout jetable, autorégulation des marchés et sainte concurrence qui vous met l'agriculture à genoux, au nord comme au sud. Quelque chose me dit que l'histoire de ces choses-là n'aurait été qu'une parenthèse et qu'il nous faudra trouver alors de nouveaux beaux. Alors, on va essayer. Bienvenue, chers amis, dans cette émission biodégradable, il faut le dire, une émission 100% écolo-viable. Et bonjour à tous, vous qui êtes au salon et puis aussi derrière le poste. Bonjour à tous. Voilà, donc émission en public, vous l'avez tout à fait compris, avec nos différents invités. Tenez, Hubert, j'ai envie de commencer par vous, parce que d'abord, vous avez écrit ce formidable petit livre qui s'appelle « Le joli petit monde d'Hubert Reeves ». Alors, on est très fiers, parce que c'est une coédition France Bleu et Elitis. Vous l'avez écrit avec Christophe Aubel, et cet ouvrage nous apprend ou nous rappelle ce qu'est la biodiversité. A-t-on des raisons de penser que la vie existe ailleurs? Pourquoi la Terre est-elle habitable? Quelle est l'espèce la plus menacée en France? Quand je parlais de fouine qui est classée espèce nuisible, quelle est un peu votre réaction, Hubert Reeves?
Alors, l'importance du dictionnaire, l'importance des mots. On utilise des mots qui charrient des sens qui ne sont pas nécessairement valables. On parle d'animaux nuisibles, on dit les mauvaises herbes. Nuisibles pour qui? Mauvaises par rapport à qui? C'est un point de vue très anthropomorphique, très dominant. Ça vient de cette ancienne tradition dans laquelle tout est fait pour nous. Nous sommes l'espèce sacrée et le restant doit nous être soumis. Eh bien, on découvre que c'est faux. Nous sommes solidaires de tous les vivants et tous les vivants ont leur raison d'exister indépendamment de notre rapport. Et en fait, globalisant, nous sommes reliés à tous ces éléments. C'est comme un jeu de domino. Quand on en élimine un, ça fait des efforts, des désastres sur les autres. Donc je pense que cette idée, il faut éliminer de notre vocabulaire parce que ça charrie trop de sens, ces mots d'animaux nuisibles, ces mots de mauvaises herbes. Il faut coexister avec toutes les espèces animales et végétales. Elles ont droit à l'existence autant que nous. Et elles nous sont utiles, comme nous pouvons leur être utiles aussi.
Alors, Hubert Reeves, c'est formidable, c'est votre parcours, parce qu'au départ, on le sait, vous êtes donc astrophysicien, vous êtes intéressé à l'écologie. Peut-être que ça vient aussi du jardin de Bellevue, où vous étiez petit, du côté du Québec. Et puis aussi, quand même, de ce lieu formidable, où j'ai eu la chance de vous rencontrer au mois de septembre, donc à Malicorne. Nous sommes dans la Puisaye, nous sommes dans le département de l'Yonne. Et puis, vous êtes actuellement en train de planter, en train de créer une forêt du millénaire. Dites-nous quelques mots sur cette forêt.
Oui, c'est cette idée un peu grandiloquente, peut-être, que j'avais envie, avec mon épouse, de planter des arbres millénaires. Ça veut dire des arbres qui peuvent vivre plus de 1000 ans, comme par exemple les séquoias, les cèdres du Liban. Bien sûr, on ne les verra pas, mais on se dit que c'est quelque chose qui est important en ce moment de les faire pour que, dans des centaines d'années, les gens voient encore ces arbres, comme Chateaubriand l'a fait, par exemple, dans son centre au Louvre. Mm-hmm. Et je crois que ça, pour moi, ça fait... C'est un petit peu mégalomane, peut-être, mais ça me fait plaisir de voir des arbres que j'ai plantés, que j'ai semés il y a 30 ans, avec des graines, des séquoias que j'ai semés, et qui ont maintenant 25 mètres de haut. Je n'en fais plus le tour avec mes deux bras. Ça me touche beaucoup. Ça me donne l'impression de m'inscrire dans une longévité bien au-delà de ma propre vie, bien sûr.
Non, mais au contraire, je crois que c'est effectivement beaucoup, beaucoup d'humilité. Alors, vous nous avez aussi rappelé dans différents ouvrages, avec entre autres celui qui s'appelle « Je n'aurai pas le temps » aux éditions du Seuil, que nous avons vécu plusieurs chocs. C'est-à-dire qu'on a eu le choc astronomique de Copernic et de Galilée, le choc biologique avec la théorie de l'évolution de Darwin, le choc psychanalytique avec Freud, le choc physique avec la mécanique quantique. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas intérêt à rajouter aussi donc le choc écologique ?
Le choc écologique, c'est de découvrir que notre espèce, et ça, c'est ce qu'ont montré les géologues et les anthropologues, est une espèce particulièrement saccageuse. Que depuis plus de 100 000 ans, ce n'est pas récent, l'arrivée des Homo sapiens quelque part correspond avec l'élimination d'une grande partie de la faune et de la flore, les oiseaux qui nichent au sol, les mammouths, les mastodontes, les aurochs et les rhinocéros à poils. Nous sommes une espèce extrêmement saccageuse et heureusement, nous commençons à en prendre conscience et depuis à peine un siècle ou deux, nous avons des mouvements de protection de la nature et nous prenons conscience de notre rôle négatif et du fait qu'il est important de le changer parce que notre action saccageuse, maintenant, nous menace nous-mêmes. C'est toute la question de l'érosion de la biodiversité.
Dont nous faisons partie, mais nous sommes l'espèce qui peut menacer évidemment le plus cette biodiversité aujourd'hui.
Celle qui le menace le plus et la seule qui peut la sauver. Oui. Nous sommes dans ce rôle de responsabilité par rapport à notre passé, que nous déplorons mais qui est là, on ne changera pas, et par rapport à l'avenir, tous ces mouvements qui se font aujourd'hui de protection de la nature et qui se rendent compte, enfin l'humanité se rend compte après 100 000 ans d'existence, que son action, elle a besoin de le changer parce qu'elle le menace lui-même.
C'est-à-dire que nous sommes à la fois le problème et aussi la solution.
Et la solution, voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut
dire. Et on est, ça vous nous alertez, on est vraiment à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on est sur une fin de civilisation. Nous, on dit assez souvent, Jean-Marie Pell, qu'elle est merveilleusement décadente, mais en même temps, il y a évidemment des possibles, qu'il y a aussi donc un autre avenir, qu'il y a autre chose à réinventer, ça prendra peut-être le temps d'une génération, mais c'est ça qui est aussi très excitant, c'est-à-dire que là, on voit la fin de quelque chose et on voit pas encore naître, d'où l'inquiétude peut-être des gens qui sont sur ces affaires-là.
Il faut réaliser qu'on n'a pas le choix maintenant. On n'a pas le choix. Si on n'arrive pas à sauver la biodiversité, nous sommes foutus. Nous sommes menacés par notre propre action. Ce qui nous a sauvés il y a 100 000 ans quand nous étions des êtres faibles par rapport aux menaces des bêtes sauvages, notre intelligence. Aujourd'hui, notre intelligence nous menace dans le sens que nous construisons des armes, des moyens de destruction plus puissants que jamais et que nous devons gérer maintenant, nous devons gérer notre intelligence pour l'empêcher de nous éliminer.
Alors, il y a bien sûr ce problème de réchauffement climatique qui est mis sur la table en débat et d'ailleurs pourquoi pas, qui est un peu, je dirais, l'effet de serre qui cache la forêt parce que là, on parle de cette biodiversité et c'est aussi extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a une superstar qui est le réchauffement climatique et donc l'effet de serre. Il y a même des émissions quand même qui s'appellent CO2 mon amour, comme ça, qui sont grotesques, mais bon, c'est ainsi. Quel est un peu votre sentiment sur ce débat, on va dire, climato-sceptique aujourd'hui, où une fois de plus, la science l'occurrence, n'est pas révélée avec un grand R. Hein, mais...
Alors moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait de la contestation. Quand il y a une pensée dominante, et aujourd'hui la pensée dominante, elle est écologique, c'est dangereux d'être dans une pensée dominante. Il faut avoir des contestataires, il faut avoir des hérétiques. Les hérétiques jouent un rôle fondamental dans la société. Mais encore faut-il que les hérétiques aient des arguments valables. Et aujourd'hui, tout ce qu'on voit du côté des eurosceptiques me paraît pas faire le poids. Les chiffres sont là, ils sont clairs. Et encore une fois, j'apprécie qu'on conteste, mais il faut avoir de bons arguments.
Bon, alors Hubert, vous restez avec nous. On va poursuivre donc ce voyage avec nos différents invités. On reviendra avec vous sur un sujet qui vous est cher, c'est la fertilité et l'infertilité. On verra cela d'ailleurs au niveau des sols et aussi des humains. Moi, je vous propose de partir en musique. Hein, c'est ça, c'est ce que me dit Xavier. Mickey 3D, c'est bon, on a ça sous le coude? Eh bien, allez, on y va.
En 1988, j'ai un peu peur de m'égarer. Aujourd'hui j'ai roulé si vite, je n'ai pas vu le temps passer. Le mur de Berlin lui aussi est sur le point de s'écrouler. C'est la guerre froide qui s'éternise mais finit par se réchauffer. En 1988, je me dis que tout peut arriver. J'aimerais te revoir, me dire que l'on ne se quittera jamais. En 1988, je me dis que j'ai pas peur d'essayer. J'aimerais te faire une fille, toi, ça te fait rigoler. En 1988, retrouver la cour du lycée, revoir Chirac qui cohabite et prend sa pile au mois de mai. Le sang de Malik Oussekine n'a pas encore coagulé. Et Pasqua qui dessert les vis de la police et du pastis. En 1988, j'ai surtout envie de déconner, retrouver le goût du picon, de l'Ardèche et puis de l'été. En 1988, on a tous envie de rêver, parler de la révolution, même si elle ne viendra jamais. En 1988, retrouver le goût de tes seins, fumer des joints, prendre la fuite, et puis s'embrasser dans les coins, aller toujours un peu plus vite, expliquer à tous les gamins qu'il faut profiter de ces heures, et puis filer à 100 à l'heure. Sur l'autoroute jusqu'à la mer, s'arrêter juste avant la nuit, avant d'attraper la colère et faire semblant d'être endormi. Sur l'autoroute jusqu'à la mer, s'arrêter juste avant la nuit, avant d'attraper la colère et faire semblant d'être endormi. En 1988,
absolument, donc toujours en direct du salon de la Porte de Versailles, salon du livre, vous l'avez compris, avec Hubert Riz, avec Tignous, avec Sébastien Viau et aussi avec Frédéric Lisa, qui est d'abord naturaliste, qui est le créateur des éditions Plumes de Carotte et au-delà d'un ouvrage dont vous allez nous parler tout à l'heure. Ce qui m'intéressait bien aussi, c'était que vous avez créé, c'est un collectif d'éditeurs, vous êtes sept. Et ça rejoint, je dirais, sur le terrain un peu ce que disait Hubert Riz de votre affaire. Vous allez nous raconter ce que vous avez fait.
Oui, c'est donc le collectif des éditeurs écolo-compatibles.
Chouette.
Pas le droit de rire. Hein. C'est sérieux, ça l'est pas, évidemment. Effectivement,
ce qu'a dit... Sur le fond, ça l'est, quand
bien
même.
Sûr, bien sûr. Ce qu'a dit Hubert Riz tout à l'heure m'a touché particulièrement. Je crois qu'effectivement, en tant qu'espèce dominante, on a les moyens de détruire ou d'utiliser abusivement pas mal de ressources. Mais je pense qu'aussi, on a les moyens, on a les outils pour sauver ou pour améliorer ou pour vraiment s'occuper de la planète quelque part.
Alors quand on est éditeur, est-ce qu'on fait du greenwashing comme on en voit partout, du développement durable.com ou bien...
Voilà, effectivement, on peut faire... des livres avec des beaux labels, ça peut être intéressant, mais on peut effectivement travailler en profondeur, en prenant conscience de toute façon que comme n'importe quelle activité humaine, on a une responsabilité. Nous, éditeurs, on crée des livres, on utilise des matières premières, on utilise du bois, on utilise de l'eau, de l'énergie et des transports pour que les livres que l'on fait arrivent dans tous les points de vente et arrivent chez les lecteurs. Mais les 7 éditeurs donc de ce collectif, on a eu envie de se poser et de réfléchir à cette responsabilité et surtout très concrètement de chercher des pistes qui pouvaient nous permettre non pas de faire du livre vert, parce que ça n'existe pas,
oui.
De même que les voitures vertes n'existent
non,
pas, de même
pas.
Que les emprunts verts n'existent pas, etc., non. etc., mais des livres qui auraient un meilleur bilan environnemental, qui pèseraient moins, et ça, on s'est rendu compte que, pour peu qu'on y mette de la volonté, c'est possible. C'est possible si on choisit certains styles de papier, des papiers notamment qui ont des labels qui sont issus de forêts gérées durablement, donc gérées d'une certaine manière, où il n'y a pas de coupe à blanc, par exemple. Mm-hmm. Si on utilise des encres à base d'huile végétale plutôt que des encres 100% minérales, 100% chimiques. Si on décide de travailler avec des imprimeurs qui sont à maximum 500, 600 km de chez nous et non pas forcément au bout du monde.
Oui, parce que j'allais vous dire que, connaissant un petit peu comme le domaine du livre pour enfants, plus de la moitié des bouquins sont fabriqués ou sont fabriqués les pandas de Tignou, c'est-à-dire en Chine. Hein,
voilà.
Donc,
je ne sais pas si c'est les pandas qui fabriquent les livres, mais effectivement, ils sont fabriqués au bout du monde.
Les enfants pandas, oui.
Et c'est évident que ça, c'est pas neutre, justement, dans notre responsabilité de qu'est-ce qu'on produit, comment on fait, en l'occurrence, notre activité d'éditeur. Si un livre peut être fait proche de chez nous, dans des bonnes conditions, pourquoi aller le faire au bout du monde, avec tout ce que ça implique, évidemment, comme conséquence environnementale ou sociale aussi.
Alors nous allons aller au bout du monde avec vous, justement, Tignous, avec ces pandas, donc, dans la brume, aux éditions Drugstore. Donc, Tignous, on le connaît, si on lit un peu Charlie Hebdo, si on lit un peu Marianne, si on lit l'écho des savanes, fluide glacial. Bon, cet homme-là a une sensibilité, quand même, faut bien dire, assez écologique, il ne l'a pas depuis hier. Et j'ai envie de débuter, donc, avec quelques phrases. Le porte-parole des pandas a réuni sa petite communauté en assemblée tout à fait extraordinaire. Selon les derniers relevés du WWF, ils ne sont plus que 1600 sur la Terre. La situation est donc grave, mais loin d'être désespérée, car selon Walt Disney, les Dalmatiens ne seraient plus que 101. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, alors ce qui est très intéressant, c'est donc évidemment cette métaphore du panda par rapport à nos modes de vie. Donc, vous êtes intéressé de près à ces pandas qui vivent en Chine, on le sait, avec tous les paradoxes qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où les droits de l'homme ne sont pas exactement très, très droits. Voilà. Et aussi, c'est en même temps une BD qui est tout à fait documentée. Alors, on voit sur la couverture ce côté tout à fait Tiananmen, c'est-à-dire des caterpillars, enfin des chars arracheurs de bambou et de forêt, et on voit ce malheureux petit panda qui est devant ces chars pour essayer de les empêcher d'avancer. On est un peu là, hein, tous les uns les autres, dans cette affaire globale.
Voilà, c'est à moi. Bonjour. Qu'est-ce que je peux répondre à ça?
Non, mais ce que vous avez voulu faire, c'est-à-dire effectivement, on est quand même dans une métaphore de notre société aussi. C'est-à-dire
que, ça, c'est que j'ai essayé de eh ben, un peu comme disait Hubert, c'est que Je pense que c'est un tout. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que si le panda disparaît, ça... Alors évidemment, les humains sont un peu plus que 1600, ça c'est clair.
Oui.
Et notamment en Chine. Mais c'est le même phénomène. C'est-à-dire que pourquoi on n'en arriverait pas à se faire disparaître nous-mêmes? Tout ce qui peut toucher le panda peut toucher à un moment ou à un autre l'humain et les autres espèces, puisque c'est pareil. J'ai encore lu un article il n'y a pas longtemps dans Charlie sur les tigres. Les tigres, ils sont 6000, je sais pas, enfin c'est ridicule. Et sauf que eux, en plus, ils sont chassés. C'est-à-dire qu'encore le panda est un peu protégé parce que c'est le trésor national chinois. Donc bon, on les élève, etc. Mais le tigre, lui, c'est encore une fois un nuisible lui aussi. Donc l'éliminer, ça pose de problèmes à personne.
Lui, il a de la chance parce qu'il y a un affectif hein, quand même autour du panda.
Oui, le panda,
ce qui n'est pas le cas de l'amibe, hein, par exemple, ou de la...
ouais, non, ça...
mais du lombric.
Dans le livre, à un moment, je dis c'est bizarre qu'on veuille faire absolument disparaître le panda. Et en fait, quand on réfléchit, il plaît aux femmes et il plaît aux enfants. Donc l'homme veut le voir disparaître.
Et ben voilà, ça... c'est logique.
Voilà, c'est toujours la même histoire. C'est un ennemi potentiel.
Alors il y a aussi le panda qui va voir le Dalai Lama. Et qui lui dit comment devons-nous pour ne pas disparaître? Et le Dalai Lama lui répond: il faut vous réincarner en panda. Voilà, donc c'est QFD. Alors, il y a aussi un panda qui écrit en France.
Alors, il est très content, le panda, parce que donc il reçoit une lettre et il se dit, ah bah c'est bien, ça doit être une réponse à ma demande de droit d'asile. Puis il dit, ah les salauds, sur la lettre il y a écrit, monsieur, la bambouseraie d'Anduze, pardon, ne peut accueillir toute la misère du monde. Voilà, donc ça donne un peu le ton. Oui, je vous en prie, Frédéric Isaac.
En tant qu'éditeur, je voudrais quand même saluer l'effort de monsieur Tignous qui, pour économiser des encres de couleur, a choisi des animaux en noir et blanc et a pu faire un album comme ça.
Et voilà,
noir
et blanc. Et voilà.
Bravo.
Absolument, effectivement, c'est bien vu. Je parlais de documentation. Bon, vous nous rappelez aussi le rôle des bambous. Et en fait, ils se nourrissent pas, ils ne grandissent pas tous à la même vitesse, ces bambous.
Non, ils grandissent pas tous à la même vitesse. Parce que ce qui est intéressant, c'est que bon. Mais ça, c'est peut-être la déformation journalistique, c'est qu'à chaque fois que j'apprends plein de choses. J'apprends plein de choses. Et alors, notamment, une chose que j'ignorais totalement, c'est que les bambous d'une même espèce, au bout d'un certain temps, disparaissent, ils fleurissent et disparaissent tous en même temps, oui. Mais à travers le monde. C'est-à-dire, la même espèce fleurit. On ne sait pas, enfin, on ne sait pas comment ils se préviennent, mais ils fleurissent au même moment et ils meurent.
Ça, c'est une horloge biologique absolument incroyable. Hein,
c'est étonnant, c'est étonnant. Et donc, effectivement, si on leur déboise, enfin, si on leur débambouse une même espèce comme ça, ben, le panda, il lui reste plus qu'à mourir. Donc, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est, en plus, moi, j'ai appris qu'en fait, à l'origine, ils vivaient dans les vallées. Mais à force que l'agriculture les chasse, eh bien maintenant ils sont dans les montagnes. Mais
je vous rassure, les ours c'était pareil, hein. Il y en avait dans toute la France,
oui,
aussi. Bah, les loups,
oui,
c'était la même chose.
Voilà.
Et,
oui,
le lynx également, donc il remonte en altitude. Hein, donc,
oui.
Et alors donc vous avez aussi un militant du WWF qui est face à un homme d'affaires. Et il lui dit, il faut protéger les pandas. Bon, le gars avec son gros cigare dit, pourquoi? Et le panda souffle à l'oreille du militant. Bah, écoutez, ils peuvent travailler pour moins cher qu'un Chinois. Et le gars dit, ok, c'est cool. Voilà. Non, mais on est sans arrêt sur ces contradictions qui sont même pas permanentes parce qu'elles sont aussi très volontaires. Donc là, une fois de plus, une des règles de la biodiversité, peut-être, Hubert Reeves, c'est que lorsqu'on parle d'une espèce, il faut parler de son milieu. C'est-à-dire que si on protège pas de milieu, on protégera jamais l'espèce.
C'est indispensable. Justement, de sélectionner une espèce et de la sauver sans sauver son milieu, c'est fatal. C'est tout un ensemble, une espèce.
Frédéric Isaac.
Oui. Moi, je vois peut-être un peu trop le bon côté des choses, mais je pense qu'on a vraiment des moyens pour développer, pour enrichir cette biodiversité. Je dis bien l'enrichir, parce qu'attention, la biodiversité, par essence même, ça ne peut pas être fixée. C'est en évolution. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure des plantes envahissantes ou des choses comme ça. Ça fait partie aussi de l'évolution qu'il peut y avoir.
Ce sont des règles de la vie, c'est le changement.
Exactement. Et il y a des domaines, peut-être je vous en parlerai tout à l'heure, sur par exemple les fruits,
oui.
où grâce aux hommes, il y a une diversité fruitière aujourd'hui sur Terre comme il n'y a jamais eu.
Voilà,
moi j'aime bien ce genre d'éléments positifs.
Oui, Hubert.
Oui, il faut dire qu'il y a des éléments positifs aussi. Et ça, c'en est un, l'interaction de l'homme a aussi créé, augmenté la biodiversité, tout en la menaçant. On est toujours avec les deux côtés de la médaille.
Alors, je vous propose une petite chanson, puis après, on va se retrouver avec Sébastien Viau. Et là, on va découvrir justement des gens qui font fortement avancer les choses. Et ça va nous faire aussi le plus grand bien. Voici Kurumine sur France Inter, Japan Pop Show. Oui.
C'est bien votre histoire d'environnement, là. Continuez à environner, nous on sera toujours contents.
Ah ben venez, on vous suit, vous savez, on est prêts à vous pousser au derrière.
Hein. Vive l'environnement, allez-y,
oui, hop là.
CO2, mon amour, Denis Gessou.
Mais un dia besta, aqui no meu moncó. Quero fazer contato, engrossar o caldo do mocotó. Descarrega direto pro oco da cabeça. Descontrolados, é nós e tá ligado. Então deixa cair. Compacto, que eu só quero ouvir. Compacto, sossegado. Compacto, um fino, um raro. Compacto, que eu só quero ouvir. Compacto, então deixa cair. Compacto, sossegadinho. Compacto, em eletricidade.
juntos para juntá-los e tentar uma pequena rotina em estilo livre. Tudo isso ao som da música. Use somente sua imaginação e faça o que lhe faz sentir bem. Se você tiver algum problema, não fique desencorajado. Simplesmente volte ao início do corte e comece novamente. Vamos então escutar junto com os melhores.
Pronto, preparado e já. Um, 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 dois, um, dois, três, quatro.
Eu só quero ouvir.
Maravilhoso.
Não deixa cair. Compacto, que eu só quero ouvir. Compacto, no meu canto.
Très agréable, ça c'était Kouroumine sur France Inter, donc Brésil, mais aussi avec des origines espagnoles et japonaises mêlées. Voilà, ben, c'est ça aussi la biodiversité, hein. C'est quand même tous ces mélanges. On aime bien aussi les musiques invasives dans le bon sens du terme, car il faut quand même penser toujours à cet aspect-là. Voilà, donc c'était Kouroumine choisi par Muriel Pérez, toujours en direct du Salon du Livre, CO2 Mon Amour en direct, avec aussi donc Sébastien Viau, qui a écrit Résistant pour la Terre. Ce livre là va nous faire aussi beaucoup de bien. Il l'a fait avec Anne Gouillon. Au départ, en fait, vous n'êtes pas du tout un professionnel de l'environnement, Sébastien, ni un militant écolo. Vous êtes professeur d'éducation physique. Et qu'est-ce que vous avez constaté en travaillant avec vos gamins ?
Eh bien, que ce soit à travers les premiers collèges où j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis ou même beaucoup plus loin au lycée français de Moscou, les mêmes questions revenaient tout le temps et c'était très souvent teinté de fatalisme. C'est-à-dire que face aux enjeux environnementaux aujourd'hui, les enfants de 11 à 18 ans sont très conscients, sont vraiment au fait des difficultés qu'il peut y avoir sur l'environnement, mais ils ne savaient pas du tout comment y répondre et les questions qu'ils me posaient, moi j'avais pas de réponse à leur donner, pas de réponse en tout cas dans lesquelles je pouvais croire.
Donc vous êtes fait un petit tour du monde pour rencontrer sur différents continents des femmes et des hommes qui font des choses et qui ont reçu ce qu'on appelle le prix Goldman. Alors la fondation Goldman est d'origine américaine, elle récompense des femmes et des hommes qui luttent pour l'environnement.
Tout à fait, ce sont des personnes qui sont rentrées en résistance, parfois dans des conditions très difficiles, parce que en effet, comme on l'a déjà quasiment tous dit aujourd'hui, si les problèmes sont issus des activités humaines, les solutions vont aussi venir par l'implication de l'homme dans son environnement, parce qu'on fait partie d'un tout, et ces problèmes créés ont des solutions, elles sont déjà pour la plupart en voie d'être développées, et ces personnes-là sont des incarnations finalement de ces solutions, et j'ai décidé d'aller les rencontrer parce que pour des enfants, pour des élèves, le fait de leur amener des exemples positifs, ça fonctionne très très bien.
Alors on va prendre par exemple celui d'une femme. Je dis ça parce que véritablement les femmes dans l'environnement ont un rôle mais plus que primordial. On peut penser à Wangari Maathai qui est connue, à Vandana Shiva, on peut penser donc à Jane Goodall aussi. Et là il s'agit d'une femme qui s'appelle Fatima Gibrel. Nous sommes en Somalie et elle tente de faire reculer le désert. Et donc elle se bat. Qu'est-ce qu'elle a fait ?
Alors Fatima c'est une personne qui est absolument extraordinaire. Donc on est en Somalie, corne de l'Afrique où il n'y a aucune stabilité politique, pas de stabilité économique non plus, et elle a réussi, elle, à fédérer les chefs de clan du Puntland pour enrayer la déforestation des dernières forêts d'acacia qui étaient détruites pour de la production de charbon de bois. Et tout de suite, puisque ça fait partie d'un tout, elle ne s'est pas arrêtée en se disant « Ok, j'ai réussi à interdire quelque chose, puisque les arbres sont des ressources renouvelables qui sont utilisées par la faune, mais aussi par les hommes. On fait partie de ces personnes qui exploitent, mais on peut les exploiter durablement. Et pour que ça soit viable, eh bien, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de créer un cercle vertueux, dans le sens où, pour remplacer le charbon de bois, elle s'est dit, qu'est-ce qu'on a en Somalie ? On a beaucoup de soleil, donc je vais essayer de développer l'énergie solaire. Et elle a réussi, par l'intermédiaire de partenariats, à faire venir des fours solaires.
Et à le faire assez simplement, parce que...
Très simplement.
Voilà, il y a les fours solaires, puis après, il y a aussi l'apprentissage de cette affaire-là, qui n'est pas toujours évidente.
Mais ça a été la plus grosse difficulté, en fait. C'est toujours lié à un contexte. Le le moment du dîner, c'était donc à la tombée de la nuit où le soleil se couche, et il a fallu rompre ces réticences culturelles pour réussir justement à leur apprendre à utiliser ces fours solaires qui servent à la fois dans le quotidien, mais qui servent également dans des cliniques de campagne pour stériliser le matériel médical.
Oui. Alors aussi, on va faire un petit tour du côté de la Patagonie. Là, vous avez rencontré un homme qui s'appelle Juan Pablo Orrego et qui tente de sauver donc les grands fleuves de Patagonie au Chili. Bon, faut dire que là-bas, on a des méga barrages. Vous avez un groupe énergétique espagnol qui s'appelle Endesa, qui a acquis sous Pinochet les droits d'exploiter, alors vraiment en toute liberté, deux grands fleuves qui participent. Alors vraiment, à l'équilibre hydrique de la région.
Oui, tout à fait. Et là, c'est vraiment l'exemple typique de ce qu'on peut retrouver dans quasiment la majorité de ces luttes-là, qui est l'accès équitable aux ressources. C'est-à-dire que ces fleuves, finalement, traversent toute la Patagonie. Et les projets d'Endesa, c'est de construire des méga-barrages qui vont produire de l'électricité, qui va être utilisée uniquement à Santiago, à plusieurs centaines, milliers de kilomètres de là, et pour de l'industrie. C'est-à-dire que les personnes localement qui y vivent verraient leurs terres submergées, verraient leur possibilité d'existence disparaître au profit absolument rien, sans aucune compensation. Or, ce que Juan Pablo essaye de mettre en place, c'est de dire que je ne suis pas contre les choses, je ne suis pas contre les barrages, mais on peut faire les choses autrement. On peut créer des tout petits barrages qui permettent en effet de produire de l'électricité, mais qui va rester localement, puisque le problème de l'électricité, c'est quand même aussi son transport. Il y a une très grande déperdition sur des centaines de kilomètres. Donc, en fait, c'est juste une question de bon sens à un moment. C'est-à-dire, quel est le système dans lequel on veut vivre? Comment on veut coexister ensemble? Parce que, comme le disait très bien Monsieur Reeves, coexister, c'est coexister aussi avec la faune et la flore, mais c'est coexister nous tous ensemble, en tant qu'hommes, en tant qu'êtres, et donc en tant que représentants d'une même communauté. Et les communautés doivent être solidaires aussi humainement.
Alors comment il a fait? Parce qu'en fait, il s'est appuyé sur une coalition d'associations, il a été épaulé par des juristes, enfin, il y a été.
Oui,
hein, donc...
oui, c'est-à-dire qu'il est épaulé à la fois localement, sur place, c'est-à-dire qu'il a réussi à mettre en place des actions très emblématiques, notamment une cavalcade de 300 kilomètres à travers la zone de Patagonie qui aurait dû être submergée, ce qui a fait beaucoup parler de ce combat-là à travers le Chili, mais aussi à l'international. Il est épaulé également par des équipes de juristes internationaux, des ONG internationales, dont Greenpeace, mais c'est loin d'être la seule. Et donc cette visibilité-là, finalement, lui permet d'avancer dans son combat. Parce que une des premières choses, c'est de lutter contre soit l'oubli, soit la non-visibilité. Quand on parlait justement d'arriver à un point où on arrive à la fin d'un système, aujourd'hui, quelque chose d'autre est en train de naître et on n'arrive pas à le discerner. Et c'est parce que ces personnes-là qui, finalement, développent des solutions d'envergure, eux, ne sont pas forcément visibles. Or, ils font partie de ce mouvement qui est en train de naître et qui est d'une force absolument incommensurable, et on a besoin de les relier, de les faire, de les mettre en avant.
Ce sont donc des fameux signaux faibles, mais qui sont extrêmement importants donc pour la société de demain. Ça se passe aussi en France. Et là, vous avez rendu hommage à deux personnages, à Jean-Claude Demort et aussi Christine Jean, qui est une biologiste chargée de mission pour le WWF, elle aussi. Et là, on est sur notre dernier fleuve, qui s'appelle la Loire. Donc, on parlait de barrage, on a une transition qui est tout trouvée.
Tout à fait. C'est-à-dire que la Loire, aujourd'hui, est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Et la lutte de Christine Jean et de tous ses amis et collaborateurs de SOS Loire Vivante, ça a été d'empêcher finalement des grands travaux de restructuration et d'aménagement du fleuve liés à des barrages. Ils ont réussi, en démontrant qu'il y avait d'autres alternatives, à prouver l'inutilité par rapport aux crues, par rapport à l'aménagement du fleuve de ces barrages-là. Et c'est une lutte également qui a pris des années et des années, qui a abouti sur le fait que ces barrages n'aient pas été construits puisqu'ils n'avaient pas d'utilité réelle. Et aujourd'hui, la dernière victoire est très très récente puisqu'ils ont réussi à empêcher un plan d'aménagement de l'estuaire qui aurait détruit les dernières vasières qui sont des lieux pour la biodiversité et qui sont écologiquement d'une richesse très très importante.
Alors vous rappelez le combat du projet de serre de la Fare, donc en amont du Puy-en-Velay. Bon, maintenant il y a effectivement le Poutès-Monistrol qui est encore dans les tuyaux, mais les choses là aussi avancent. Ça doit vous plaire, vous Hubert Reeves, de voir des femmes et des hommes comme ça qui se battent, parce que vous n'êtes pas non plus pour la culpabilisation des femmes et des hommes, en sachant que là ça bloque un peu les énergies. Là on est quand même dans l'ouverture avec tout ça.
Oui, il faut un point de vue dynamique. C'est très important de ne pas être dans un point de vue dépressif. Je ne suis pas pour la décroissance. Il faut dire, il faut faire mieux avec moins. Oui. C'est vrai qu'il faut faire mieux, C'est vrai que les réserves ne sont pas infinies, donc c'est un aspect d'astuce, d'intelligence. Là, c'est là où l'intelligence humaine peut servir, faire mieux avec moins.
Et aujourd'hui, on est aussi dans l'adaptation, parce qu'on voit ce coût du réchauffement climatique, il faut être à peu près honnête, ça grimpe de 2 à 3 % par an. Notre société ne va pas le réduire là tout de suite. En revanche, on peut peut-être être capable de s'adapter pour limiter la casse.
Donc ça va être une nécessité. De toute façon, ça va continuer à croître et il faut se préparer à gérer une planète de plus en plus difficile à gérer. Alors, ça doit être possible, mais ça reste incertain.
Nous avons, je ne vais pas dire que pour cela, nous avons aussi cette biodiversité, mais quand même, quand on l'utilise bien comme il faut, bah, elle s'adapte, et puis nous également. Et Frédéric Lizac, vous êtes là, cette fois-ci, non pas l'auteur, parce que l'auteur est Serge Chasles, mais vous êtes l'éditeur aux éditions Plume de Carotte d'un ouvrage tout frais, qui s'appelle « De mémoire de verger, histoire gourmande des fruits et de nos campagnes ». Là aussi, on est dans la biodiversité à fond, quoi.
Ah oui, et puis dans une biodiversité justement très étonnante parce que qui a été créée par les activités humaines.
Oui.
Alors ça remonte à très très longtemps, hein, déjà du temps des Romains. On cherchait des variétés d'abricots, on cherchait des variétés de poires qu'on avait fait venir du Proche-Orient. La grande époque, c'est le 18e, 19e siècle. Mais aujourd'hui, on a toujours cette diversité potentielle, voire même elle continue. L'exemple, par exemple, du kiwi est amusant. Le kiwi, il y a 30 ou 40 ans, on connaissait pas.
Ah,
c'était,
c'est ça, oui.
C'était des fruits qui étaient effectivement du côté de l'Australie, des choses comme ça, mais qui, aujourd'hui, dans le sud-ouest de la France, il y a des énormes vergers de kiwi. Il y a 30, 40 ans, c'était un fruit extrêmement rare dans nos assiettes. Aujourd'hui, il est là et produit localement.
Alors, il y a bien sûr la superstar qu'est la pomme, mais il faut dire les pommes.
Alors, les pommes, parce que, bon, comme moi, vous allez de temps en temps, j'imagine, sur un marché ou un étal de fruits. Je ne sais pas, vous avez une idée de combien de variétés de pommes vous pouvez disposer sur un marché?
Si vous êtes dans un supermarché, on va dire que vous en avez 5 ou 6. Et oui. Fort heureusement, elles sont là pour s'adapter aux barquettes.
Maximum, hein, maximum.
C'est ça, maximum. Oui. Et sur un marché, allez, je vais dire qu'il y en a peut-être 12, 13,
voilà.
15.
Bah, il vous en manque 2990 à peu près pour avoir l'ensemble des variétés qui existent en Europe occidentale.
Oui.
Et puis, les poires aussi. Enfin, j'avais juste envie de me permettre de vous lire quelques noms de variétés de poires. Cuisse Madame, Bellissime d'été, Chère Adam, Trésor d'amour, Cassante de Brest, Petite Rosée, Grosse Rosée,
c'est
Bourdon Musqué,
Pucelle
de Xaintonge, hein, ça vous plaît ça.
Oui.
Petit Oin, Belle et Bonne, Poire d'Anis, Trompe Pastre, Poire Orange Tulipée, etc.
Vous êtes dans une émission d'environnement sur France Inter, les enfants. Oui.
Ça, ce sont des noms de variétés de poires. Et elle raconte la diversité, elle raconte le travail des hommes qui avaient élaboré toutes ces variétés. Elle raconte aussi toutes les histoires locales, parce que souvent, effectivement, il y a des noms de pays. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me rend très optimiste. Cette diversité fruitière est à préserver. C'est sûr qu'elle a été beaucoup plus forte au 19e siècle. Elle a été plus forte intellectuellement, je dirais. Parce que aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on peut profiter le mieux de toute notre histoire humaine de la biodiversité fruitière.
Racontez-nous.
J'explique. Parce que jusqu'à la fin du 19e, il y avait cette biodiversité, mais parce que chacun dans sa vallée, chacun dans son canton, avait sélectionné sa propre variété de poire, de framboise, de noisette.
Et qui était adaptée au terroir.
Qui était adaptée au terroir.
On peut estimer, par exemple, que tous les 50 kilomètres, on a une bande de climat, de terroir, de
tout
sol.
Tout à fait, le sol. Enfin, voilà, la trilogie du sol, du climat et du travail des hommes. On a eu toute cette explosion de variétés. Par nécessité. Mais il n'y avait pas les moyens de conservation, il n'y avait pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui. Et chacun, en fait, connaissait sa variété de poire, sa variété de framboise.
Puis on n'a peut-être pas non plus des semenciers qui essayaient de mettre aussi la mamie sur le vivant.
Alors donc, c'est vrai, effectivement, qu'il y avait cet aspect-là.
Aussi.
Il n'empêche qu'aujourd'hui, grâce à tout le travail d'associations, de vergers conservatoires, qui continuent à maintenir ce patrimoine vivant, parce que ce n'est pas des banques, ce n'est pas des frigos, c'est des arbres.
Ah bon
qui produisent chaque année, qu'il faut entretenir chaque année. Aujourd'hui, on peut aller sur des foires aux fruits et découvrir, alors peut-être pas 3000, mais 50, 60 variétés de pommes. Et ça, nos ancêtres n'ont jamais eu accès à cette richesse. Elle existait, mais elle était dispersée. Ça, c'est assez magique, je trouve.
Quand on va dans le jardin du Berryf, c'est extraordinaire, parce que là aussi, vous cultivez la biodiversité, alors à la fois pour votre potager, pour les arbres aussi. Enfin, voilà, vous veillez bien à cela, quoi. J'imagine bien qu'il y a des espèces plus résistantes, parce qu'on est dans votre sol de Lyon, et qui correspond aussi à ce terroir et au climat, quoi.
Oui, on a au moins 5-6 variétés de pommiers qui, apparemment, sont maintenant presque disparues. qu'on a pu retrouver, faire identifier.
Alors, Frédéric Lisa, qui a aussi une expression qui est très intéressante, que vous connaissez, vous qui êtes avec nous, j'y suis allé pour des prunes. Aller quelque part pour des prunes, ça vient d'où cette histoire ?
Ça vient d'une vraie variété de prunes, la prune de Damas, et ça vient d'une histoire humaine. On est encore dans le lien entre l'homme et la nature. En fait, c'était au temps des croisades, au XIIe siècle, où la énième croisade part du côté de la Syrie à Damas, en disant « pas de problème, on va les écraser, ces mécréants ». Ils ont la bonne idée d'arriver dans la ville en passant par les vergers, en se disant comme ça au moins on va les priver de nourriture et d'accord. Puis nous on aura de quoi se nourrir si le siège est long. Oui. Ça se passe très très mal et au bout de 4 jours ils s'en vont. Ils s'en vont, mais au passage ils ont découvert la prune de Damas et ils y sont allés pour des prunes.
Et ben voilà. Bon, écoutez, nous on va poursuivre ce voyage et ce sera pas pour des prunes, c'est avec l'affaire Louis Trio. Je pense qu'ils sont toujours trois. C'est bien cela. Voilà, et on connaît bien sûr la fin, donc Mobilis Immobilier, donc c'était donc l'affaire Louis Trio, toujours sur France Inter, il est, allez je vous le fais, 3h moins 10, aujourd'hui on dirait les 14h49, et ben nous on dit encore qu'il est 3h moins 10. Et toujours avec nos différents invités, Sébastien Viau, donc avec cet ouvrage Résistant pour la Terre, aux éditions Via Tao, avec pas mal d'exemples, et un qui va nous emmener aux Philippines, où là on va essayer de déplacer des montagnes de déchets, et on y arrive.
Exactement.
Exactement, on y arrive. C'est le travail de Juan Hernandez sur les Philippines qui a réussi à faire en sorte que son pays soit le premier à interdire l'incinération des déchets, c'est-à-dire transformer une formidable pollution des sols en une pollution des airs. Et moi, ce qui m'a frappé dans le travail de Juan, c'est justement de montrer à quel point les déchets sont une notion très récente et que, au contraire, on peut les transformer en ressources et que les déchets peuvent avoir une seconde vie, que ça soit par le recyclage, que ça soit par le compost, que les déchets, on n'a pas juste soit à les brûler, soit à les enterrer.
Il y a plein d'autres solutions. Quand on regarde la nature, Hubert Reeves, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de déchets dans la nature. Hein, tout est.
Elle recycle tout. Nous ne recyclons très peu de choses et c'est un des objectifs importants.
Et c'est possible, c'est absolument possible. C'est-à-dire que sur les exemples des Philippines, on voit que sur 100% de déchets, 50% sont organiques. Donc la vraie solution, c'est de bien les trier, puisqu'on peut du coup régler déjà la moitié de la quantité de déchets. Et sur ce qui reste, il y a 40% qui sont absolument recyclables de manière très rapide. Les cartons, les verres, etc. etc. Et il reste plus que 10% de déchets qui, eux aussi, ont des solutions techniques et industrielles qui sont déjà viables, qui existent déjà.
Alors comment on a fait ? Comment ils ont fait là-bas ?
Ils ont mis en place ces structures de tri. C'est encore en train d'être mis en place. C'est-à-dire que les Philippines n'ont pas fini de gérer leur problème des déchets. Hein. 14 millions d'habitants à Manille, ça génère des tonnes et des tonnes de déchets. Il y a encore des décharges gigantesques, hein. Que ça soit Smoky Mountains, Payatas, des anciens sites ou des sites nouveaux, il y a encore beaucoup de déchets. Mais on avance par ce recyclage grâce au tri, par ce compost qui repart vers le secteur agricole, etc. etc.
Et ça me rappelle aussi l'affaire de Curitiba. Cette fois-ci, donc, on est au Brésil, donc avec un maire assez extraordinaire qui se occupé à la fois de ses transports et de ses déchets, qui a incité, en faisant une espèce de monnaie d'échange, les gens à trier tout à fait comme il faut. Alors, des exemples, vous en avez plein, vous en avez une vingtaine. Un, tristement célèbre, nous sommes en 1984, nous sommes à Bhopal, donc il y a cette cuve qui est mal entretenue qui explose, 40 tonnes de gaz mortel, ça nous fait, alors c'est toujours ces chiffres au kilomètre, entre 16 000 et 30 000 morts, et c'est pas forcément fini avec tous ces gamins donc, qui naissent avec des séquelles à vie. Et là, vous avez des personnes qui continuent à se battre et c'est très très important. Que font-elles ?
Alors c'est très très loin d'être fini parce qu'au niveau des chiffres, on est rendu aujourd'hui, 25 ans après, à 500 000 victimes. Oui. Alors les deux personnes qui ont eu le prix Goldman en Inde, à Bhopal, c'est Rachida Bi et Champadevi Shukla, qui elles vivaient justement à côté de l'usine lorsque la cuve a explosé. Elles y ont perdu leur santé, leur famille, mais elles n'ont pas baissé les bras et aujourd'hui elles ont créé, enfin ça fait maintenant quelques années, elles ont créé une structure qui leur permet de soigner la seconde, voire la troisième génération de victimes. Parce qu'il faut savoir que depuis 1984, c'est-à-dire 25 ans, le site de l'usine n'a encore jamais été décontaminé. C'est-à-dire que sur place, on retrouve encore les produits toxiques qui, pour certains, étaient enterrés et d'autres qui sont, donc en étant passés dans l'usine, on passe dans les anciens sites de laboratoire et on trouve encore les produits chimiques à l'air libre.
Et on essaye bien sûr d'avoir un accès à une eau qui est saine. Sébastien Biot, ouais. La suite de cette affaire, qu'est-ce que ça va être ?
La suite de cette affaire, c'est la création d'une association qui s'appelle donc Résistants pour la Terre pour continuer à les soutenir, que ça soit via un soutien politique, financier ou médiatique, en leur donnant de la visibilité, parce que le premier engagement qui est facile, c'est de lutter contre l'oubli, notamment pour Bhopal, c'est-à-dire se faire le porteur de ces messages. Et à travers cette association, Fatima Djibril, par exemple, le premier exemple dont on vient de parler, viendra en France du 31 mars au 6 avril pour avoir des rencontres ici en France, et notamment lors du Tour du Monde du Développement Durable qui aura lieu à la Cité Internationale Universitaire de Paris, organisée par Together le 2 avril prochain. Aujourd'hui aussi, c'est la suite dans le club environnement de mon petit collège, parce que je suis parti pour mes élèves et je suis revenu aussi pour mes élèves, que je salue, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent l'émission aujourd'hui.
Ils vont mieux
et ils travaillent de manière vraiment super positive dans le collège pour en faire un collège écologique.
Alors le 31 mars, c'est aussi une date importante, ça va se passer à l'hôtel de ville, ce sera à 19h. C'est aussi d'où votre présence, Hubert Reeves, avec votre belle-fille, avec nous aussi, parce que vous êtes le président d'une association. Moi, j'étais un peu intrigué, j'ai vu fertilité et médecine chinoise. Mais peut-être qu'au départ, rappelez une chose, c'est que les problèmes d'infertilité des sols et aussi des hommes, ça va un peu de pair.
Oui, il faut savoir gérer une situation d'une façon qui n'est pas radicale, mais intelligente. Il est certain que la population augmente et que c'est un des problèmes de notre présent, Il est certain aussi que la solution simple mais mauvaise qui consiste à dire aux femmes « n'ayez plus d'enfants » n'est pas viable non plus. Il faut que la vie continue et on se rend compte que la fertilité, ça reste un élément important et menacé par la pollution. Donc d'une part, il faut penser globalement, mais aussi il faut voir que les femmes ont le droit d'avoir des enfants pourvu que ce soit fait dans une gestion et non pas dans une opinion radicale. On arrête d'avoir des enfants, ça ne marche jamais. On l'a vu en Chine, par exemple, quand on a arrêté d'avoir des filles, solution simple, un problème grave, et bien ça a créé bien d'autres problèmes. Oui. Donc il faut toujours une gestion qui soit intelligente des problèmes.
Alors on a bien sûr ces fameux produits hein, qu'on utilise d'ailleurs tout à fait quotidiennement sans forcément regarder ni les modes d'emploi, ni les fameuses étiquettes, les pesticides, mais d'ailleurs aussi tout le reste. Et de plus en plus de personnes vont consulter hein, dans les pays occidentaux, et même ailleurs. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de cas d'infertilité.
Absolument. Et ça, je crois que nous allons
alors, Élise Bogossian,
nous dire quelques mots sur ce sujet.
Voilà. Ah, oui.
Merci de m'avoir accueilli, Denis. Alors, effectivement, nous apercevons dans les pays industrialisés que la fertilité, plutôt la fécondité, s'est réduite jusqu'à des niveaux qui deviennent très préoccupants, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Par exemple, chez l'homme, on s'aperçoit en l'espace d'une génération que la production spermatique a chuté de moitié. Et également, chez la femme, de nombreuses pathologies, comme les pathologies tubaires, utérines, ovulatoires, sont en pleine explosion. Alors, tout cela, ça amène, en France en tout cas, un couple sur six en moyenne en consultation dans les cabinets de ville et dans les centres de procréation assistée. Or, les chances de grossesse aujourd'hui par FIV, on appelle ça la fécondation in vitro, ne dépassent guère les 20%. Nous apercevons dans les travaux publiés à l'étranger, notamment sur la médecine chinoise et en particulier l'acupuncture, que on observe, en tout cas dans les études scientifiques, une augmentation des chances de grossesse lorsque l'acupuncture accompagne ces processus de PMA, la procréation médicalement assistée. Alors nous avons mis en place, je fais partie d'une équipe de médecins chercheurs à l'hôpital des Bleuets, nous avons mis en place une étude clinique pour évaluer justement l'effet de l'acupuncture et prouver son effet dans l'amélioration dans l'augmentation des taux de grossesse. Et comme notre étude, donc nous avons un agrément bien sûr, mais nous avons besoin de financement pour exister. Et c'est comme ça que merci beaucoup Hubert, a participé à soutien notre démarche.
Hein, voilà.
Et le parrain de cette soirée que nous organisons à l'Hôtel de Ville le 31
donc,
mars.
Le 31 mars, c'est bien noté.
Voilà.
Donc, mais c'est un thème
donc,
effectivement où nous sommes cordialement invités. C'est ce que vous alliez dire.
Vous
voilà,
êtes invités tous.
Oui.
Il nous reste encore des places, quelques places, pas beaucoup, mais vous êtes en tout cas bien invités.
On met tout ça sur le site de CO2 Mon Amour si on souhaite le retrouver. Donc
voilà.
Ne vous inquiétez
très bien,
pas. Donc,
merci. Merci beaucoup.
Vous inquiétez pas, Élise. Là, vous parliez effectivement de la Chine, la médecine chinoise. Ça vous a quand même beaucoup inspiré aussi, T-News. Non pas la médecine chinoise, mais c'est là quand même que vous avez placé évidemment vos pandas avec ce lieu de contradiction incroyable. Donc vous avez dit, ce sujet-là, il est pour moi, celui des pandas. Donc,
c'est formidable. Il y a tout. Il y a les bouddhistes que j'affectionne particulièrement. Il y a les délocalisations qui se situent là. Il y a un gouvernement qui n'est pas des plus démocratiques. Il y a tout. Et ce panda qui est le trésor national et qui, du coup, est protégé. Et il est protégé, mais il est quand même mis dans des cages. Quand il le protège, il le met dans des cages. Si le WWF, j'imagine, il y a d'autres associations comme ça qui ne soutenaient pas les recherches, j'imagine que ça se passerait dans des conditions un peu particulières. Ah bon, c'est très rigolo que ce soit vraiment là que tout ça se situe.
Et puis pour faire le lien avec ce que disait Élise aussi, Berives, vous avez une planche qui est aussi délicieuse. Vous avez un panda en train de discuter avec derrière donc des officiers chinois. Et puis on lui pose la question, mais pourquoi vous n'avez qu'un seul bébé? Il dit, nous appliquons les règles de la natalité chinoise. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, un grand merci à tous. Moi, je vous renvoie donc à ces différents ouvrages. Panda dans la brume de T-News aux éditions Drugstore, vous régalerez. Aux éditions donc Via Aïto, Résistant pour la Terre de Sébastien Viaud et de Anne Gouillon. Cette fois-ci aux éditions France Bleu et Elitis, co-édition Hubert Reeves et Christophe Aubel, Le joli petit monde d'Hubert Reeves. Et puis aux éditions donc Plume de Carottes, de Mémoire de Verger, Histoire gourmande des fruits et de nos campagnes. Je vous remercie de tout cœur. Je crois qu'on peut les applaudir. Il y avait à la technique Fabien Gosset et Olivier Leroux, Marion Lollet, notre assistante. Merci à Jean-Christophe Pinaza, à Muriel Pérez d'avoir choisi les disques, à Anne Gouzon aussi, donc, qui nourrit les sites de CO de Mon Amour, à Xavier Pestugia qui a réalisé cette émission. Possibilité pour vous de la podcaster, de la réécouter pendant 4 semaines. La semaine prochaine, Colline Serrault, donc à ce micro, elle sera avec nous en direct, avec aussi quand même pas mal d'espoir. Solution locale pour un désordre global, c'est le titre de son film. Donc Colline Serrault dans CO2 Mon Amour. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Ce sera demain à 19h54. Après les petits bateaux, retour de la Tulu, mon petit loup. Et dans quelques instants, eh bien, restez à l'écoute. Fabienne Chauvière, Les Aventuriers. Elle reçoit Jacques Grassi, qui est le directeur de l'Institut des technologies pour la santé. France Inter, il est 15h30.